fort comme la mort. Première partie, chapitre 3. Quand viendrez-vous, mon ami? Je ne vous ai pas aperçu depuis 3 jours, et cela me semble long. Ma fille m'occupe beaucoup, mais vous savez que je ne peux plus me passer de vous. » Le peintre, qui crayonnait des esquisses, cherchant toujours un sujet nouveau, relut le billet de la comtesse, puis, ouvrant le tiroir d'un secrétaire, il l'y déposa, sur un amas d'autres lettres, entassées là depuis le début de leur liaison. Il s'était accoutumé, grâce aux facilités de la vie mondaine, à se voir presque chaque jour. De temps en temps, elle venait chez lui, et, le laissant travailler, s'asseyait pendant 1 heure ou 2 dans le fauteuil où elle avait posé jadis. Mais comme elle craignait un peu les remarques des domestiques, elle préférait pour ses rencontres quotidiennes, pour cette petite monnaie de l'amour, le recevoir chez elle, ou le retrouver dans un salon. On arrêtait un peu d'avance ces combinaisons, qui semblaient toujours naturelles à M. de Guilleroy. 2 fois par semaine au moins, le peintre dînait chez la comtesse avec quelques amis. Le lundi, il la saluait régulièrement dans sa loge à l'opéra. Puis, il se donnait rendez-vous dans telle ou telle maison où le hasard les amenait à la même heure. Il savait les soirs où elle ne sortait pas, et il entrait alors prendre une tasse de thé chez elle, se sentant chez lui près de sa robe, si tendrement et si sûrement logé dans cette affection mûrie, si capturé par l'habitude de la trouver quelque part, de passer à côté d'elle quelques instants, d'échanger quelques paroles, de mêler quelques pensées qu'il éprouvait, bien que la flamme vive de sa tendresse fût depuis longtemps apaisée, un besoin incessant de la voir. Le désir de la famille, d'une maison animée, habitée, du repas en commun, des soirées où l'on cause sans fatigue avec des gens depuis longtemps connus, ce désir du contact, du coudoiement, de l'intimité qui sommeille en tout cœur humain et que tout vieux garçon promène de porte en porte chez ses amis où il installe un peu de lui, ajoutait une force d'égoïsme à ses sentiments d'affection. Dans cette maison où il était aimé, gâté, où il trouvait tout, il pouvait encore reposer et dorloter sa solitude. Depuis 3 jours, il n'avait pas revu ses amis, que le retour de leur fille devait agiter beaucoup, et il s'ennuyait déjà, un peu fâché même qu'ils ne l'eussent point appelé plus tôt, et mettant une certaine discrétion à ne les point solliciter le premier. La lettre de la comtesse le souleva comme un coup de fouet. Il était 3 heures de l'après-midi. Il se décida immédiatement à se rendre chez elle pour la trouver avant qu'elle sortît. Le valet de chambre parut, appelé par un coup de sonnette.
« Quel temps, Joseph ?
Très beau, monsieur.
Chaud ?
Oui, monsieur.
Gilet blanc, jaquette bleue, chapeau gris. »
Il avait toujours une tenue très élégante, mais bien qu'il fût habillé par un tailleur au style correct, la façon seule dont il portait ses vêtements, dont il marchait, le ventre sanglé dans un gilet blanc, le chapeau de feutre gris, haut de forme, un peu rejeté en arrière, semblait révéler tout de suite qu'il était artiste et célibataire. Quand il arriva chez la comtesse, on lui dit qu'elle se préparait à faire une promenade au bois. Il fut mécontent et attendit. Selon son habitude, il se mit à marcher à travers le salon, allant d'un siège à l'autre, ou des fenêtres au mur, dans la grande pièce assombrie par les rideaux. Sur les tables légères, aux pieds dorés, des bibelots de toutes sortes, inutiles, jolis et coûteux, traînaient dans un désordre cherché. C'étaient de petites boîtes anciennes en or travaillé, des tabatières à miniature, des statuettes d'ivoire, puis des objets en argent mat, tout à fait modernes, d'une drôlerie sévère, où apparaissait le goût anglais. Un minuscule poêle de cuisine, et dessus un chat buvant dans une casserole.
un étui à cigarettes simulant un gros pain, une cafetière pour mettre des allumettes, et puis, dans un écrin, toute une parure de poupées, colliers, bracelets, bagues, broches, boucles d'oreilles, avec des brillants, des saphirs, des rubis, des émeraudes, microscopiques fantaisies qui semblaient exécutées par des bijoutiers de Lilliput. De temps en temps, il touchait un objet donné par lui à quelque anniversaire, le prenait, le maniait, l'examinait avec une indifférence rêvassante, puis le remettait à sa place. Dans un coin, quelques livres rarement ouverts, reliés avec luxe, s'offraient à la main sur un guéridon porté par un seul pied devant un petit canapé de forme ronde. On voyait aussi sur ce meuble la revue des deux mondes, un peu fripée, fatiguée, avec des pages cornées, comme si on l'avait lue et relue. Puis d'autres publications non coupées, les arts modernes, qu'on doit recevoir uniquement à cause du prix, l'abonnement coûtant 400 francs par an, et la feuille libre, mince plaquette à couverture bleue, où se répandent les poètes les plus récents qu'on appelle les énervés. Entre les fenêtres, le bureau de la comtesse, meuble coquet du dernier siècle, sur lequel elle écrivait les réponses aux questions pressées apportées pendant les réceptions. Quelques ouvrages encore sur ce bureau, les livres familiers, enseignes de l'esprit et du cœur de la femme, Musset, Manon Lescaut, Werther. Et pour montrer qu'on n'était pas étranger aux sensations compliquées et aux mystères de la psychologie, les fleurs du mal, le rouge et le noir, la femme au XVIIIe siècle, Adolphe. À côté des volumes, un charmant miroir à main, chef-d'œuvre d'orfèvrerie, dont la glace était retournée sur un carré de velours brodé, afin qu'on pût admirer sur le dos un curieux travail d'or et d'argent. Bertin le prit et se regarda dedans. Depuis quelques années, il vieillissait terriblement, et bien qu'il jugeât son visage plus original qu'autrefois, il commençait à s'attrister du poids de ses joues et des plissures de sa peau. Une porte s'ouvrit derrière lui. « Bonjour, monsieur Bertin, » disait Annette. « Bonjour, petite. Tu vas bien ?»« Très bien. Et vous ?»« Comment, tu ne me tutoies pas, décidément ?»« Non, vrai, ça me gêne. »«
Allons donc. »
« Oui, ça me gêne. Vous m'intimidez. »«
Pourquoi ça ?»«
Parce que vous n'êtes ni assez jeune, ni assez vieux. »
Le peintre se mit à rire. « Devant cette raison, je n'insiste point. »
Elle rougit tout à coup jusqu'à la peau blanche où poussent les premiers cheveux et reprit, confuse, « Maman m'a chargé de vous dire... » qu'elle descendait tout de suite, et de vous demander si vous vouliez venir au bois de Boulogne avec nous.
« Oui, certainement.
Vous êtes seul ?»« Non, avec la duchesse de Mortemain. »«
Très bien, j'en suis. »«
Alors, vous permettez que j'aille mettre mon chapeau ?»«
Va, mon enfant. »
Comme elle sortait, la comtesse entra, voilée, prête à partir. Elle tendit ses mains.
« On ne vous voit plus. » « Qu'est-ce que vous faites ?»«
Ah, je ne voulais pas vous gêner en ce moment. » Dans la façon dont elle prononça « Olivier », elle mit tous ses reproches et tout son attachement.
« Vous êtes la meilleure femme du monde, » dit-il, ému par l'intonation de son nom.
Cette petite querelle de cœur finie et arrangée, elle reprit sur le ton des causeries mondaines « Nous allons aller chercher la duchesse à son hôtel, et puis nous ferons un tour de bois. Il va falloir montrer tout ça à Nanette. » Le landau attendait sous la porte cochère. Bertin s'assit en face des deux femmes, et la voiture partit au milieu du bruit des chevaux piaffant sous la voûte sonore. Le long du grand boulevard descendant vers la Madeleine, toute la gaieté du printemps nouveau semblait tomber du ciel sur les vivants. L'air tiède et le soleil donnaient aux hommes des airs de fête,
aux femmes des airs d'amour, faisant cabrioler les gamins et les marmitons blancs qui avaient déposé leurs corbeilles sur les bancs pour courir et jouer avec leurs frères, les jeunes voyous. Les chiens semblaient pressés, les serins des concierges s'égosillaient. Seules, les vieilles rosses attelées au fiacre allaient toujours de leur allure accablée, de leur trot de moribond. La comtesse murmura « Oh, le beau jour, qu'il fait bon vivre !» Le peintre, sous la grande lumière, les contemplait l'une auprès de l'autre, la mère et la fille. Certes, elles étaient différentes, mais si pareilles en même temps que celle-ci était bien la continuation de celle-là, faite du même sang, de la même chair, animée de la même vie. Leurs yeux, surtout, ces yeux bleus éclaboussés de gouttelettes noires, d'un bleu si frais chez la fille, un peu décoloré chez la mère, fixaient si bien sur lui le même regard quand il leur parlait, qu'il s'attendait à les entendre lui répondre les mêmes choses. Et il était un peu surpris de constater, en les faisant rire et bavarder, qu'il y avait devant lui deux femmes très distinctes, une qui avait vécu et une qui allait vivre. Non, il ne prévoyait pas ce que deviendrait cet enfant quand sa jeune intelligence, influencée par des goûts et des instincts encore endormis, aurait poussé, se serait ouverte au milieu des événements du monde. C'était une jolie petite personne nouvelle, prête au hasard et à l'amour, ignorée et ignorante, qui sortait du port comme un navire, tandis que sa mère y revenait, ayant traversé l'existence et aimé. Il fut attendri à la pensée que c'était lui qu'elle avait choisi et qu'elle préférait encore, cette femme toujours jolie, bercée en ce landau dans l'air tiède du printemps. Comme il lui jetait sa reconnaissance dans un regard, elle le devina, et il crut sentir un remerciement dans un frôlement de sa robe. À son tour, il murmura « Oh oui, quel beau jour !» Quand on eut pris la duchesse, rue de Varennes, ils filèrent vers les Invalides, traversèrent la Seine, et gagnèrent l'avenue des Champs-Élysées en montant vers l'Arc de Triomphe de l'Étoile, au milieu d'un flot de voitures. La jeune fille s'était assise près d'Olivier, à reculons, et elle ouvrait, sur ce fleuve d'équipage, des yeux avides et naïfs. De temps en temps, quand la duchesse et la comtesse accueillaient un salut d'un court mouvement de tête, elle demandait « Qui est-ce » Ils nommaient « les Pontéglin » ou « les puis celle-ci » ou « la comtesse de Locrist » ou « la belle Madame Mandelière ». On suivait à présent l'avenue du Bois de Boulogne, au milieu du bruit et de l'agitation des roues. Les équipages, un peu moins serrés qu'avant l'Arc de Triomphe, semblaient lutter dans une course sans fin. Les fiacres, les landaux lourds, les huit ressorts solennels se dépassaient tour à tour, distancés soudain par une victoria rapide, attelée d'un seul trotteur, emportant, avec une vitesse folle, à travers toute cette foule roulante, bourgeoise ou aristocrate, à travers tous les mondes, toutes les classes, toutes les hiérarchies, une femme jeune, indolente, dont la toilette claire et hardie jetait aux voitures qu'elle frôlait un étrange parfum de fleurs inconnues. « Cette dame-là, qui est-ce ? » demandait Annette. « Je ne sais pas. » répondait Bertin, tandis que la duchesse et la comtesse échangeaient un sourire. Les feuilles poussaient, les rossignols familiers de ce jardin parisien chantaient déjà dans la jeune verdure, et quand on eut pris la file au pas, en approchant du lac, ce fut de voiture à voiture un échange incessant de saluts, de sourires et de paroles aimables lorsque les roues se touchaient. Cela maintenant avait l'air du glissement d'une flotte de barques où étaient assis des dames et des messieurs très sages. La duchesse,
dont la tête à tout instant se penchait devant les chapeaux levés ou les fronts inclinés, paraissait passer une revue et se remémorer ce qu'elle savait, ce qu'elle pensait et ce qu'elle supposait des gens à mesure qu'ils défilaient devant elle.
« Tiens, petite, revoici la belle Madame Mandelière, la beauté de la République. »
Dans une voiture légère et coquette, la beauté de la République laissait admirer, sous une apparente indifférence pour cette gloire indiscutée, ses grands yeux sombres, son front bas, sous un casque de cheveux noirs, et sa bouche volontaire, un peu trop forte.
« Très belle tout de même, » dit Bertin.
La comtesse n'aimait pas l'entendre vanter d'autres femmes. Elle haussa doucement les épaules et ne répondit rien. Mais la jeune fille, chez qui s'éveilla soudain l'instinct des rivalités, osa dire
« Moi, je ne trouve point. »
Le peintre se retourna.
« Quoi ? Tu ne la trouves point belle ? » ?»«
Non, elle a l'air trempée dans l'encre. » La duchesse riait, ravie.
« Bravo, petite. Voilà 6 ans que la moitié des hommes de Paris se pâment devant cette négresse. Je crois qu'ils se moquent de nous. Tiens, regarde plutôt la comtesse de Locrist. »
Seule, dans un landau, avec un caniche blanc, la comtesse, fine comme une miniature, une blonde aux yeux bruns, dont les lignes délicates, depuis 5 ou 6 ans, également, servait de thème aux exclamations de ses partisans, saluait, un sourire fixé sur la lèvre. Mais Nanette ne se montra pas encore enthousiaste.
« Oh, » fit-elle, « elle n'est plus bien fraîche. »
Bertin, qui d'ordinaire, dans les discussions quotidiennement revenues sur ses deux rivales, ne soutenait point la comtesse, se fâcha soudain de cette intolérance de gamine.
« Bigre, » dit-il, « qu'on l'aime plus ou moins, elle est charmante, et je te souhaite de devenir aussi jolie qu'elle. »«
Laissez donc, » reprit la duchesse, « vous remarquez seulement les femmes quand elles ont passé 30 ans. »«
Elle a raison, cette enfant, vous ne les vantez que des fraîchies. »
Il s'écria,
« Permettez, une femme n'est vraiment belle que tard, lorsque toute son expression est sortie. »
Et, développant cette idée que la première fraîcheur n'est que le vernis de la beauté qui mûrit, il prouva que les hommes du monde ne se trompent pas en faisant peu d'attention aux jeunes femmes dans tout leur éclat, et qu'ils ont raison de ne les proclamer belles qu'à la dernière période de leur épanouissement. La comtesse, flattée, murmurait « Il est dans le vrai, il juge en artiste. » C'est très gentil, un jeune visage, mais toujours un peu banal. » Et le peintre insista, indiquant à quel moment une figure, perdant peu à peu la grâce indécise de la jeunesse, prend sa forme définitive, son caractère, sa physionomie. Et, à chaque parole, la comtesse faisait « oui » d'un petit balancement de tête convaincu. Et plus il affirmait, avec une chaleur d'avocat qui plaide, avec une animation de suspect qui soutient sa cause, plus elle l'approuvait du regard et du geste, comme s'ils se fussent alliés pour se soutenir contre un danger, pour se défendre contre une opinion menaçante et fausse. Annette ne les écoutait guère, tout occupée à regarder. Sa figure, souvent rieuse, était devenue grave, et elle ne disait plus rien, étourdie de joie dans ce mouvement. Ce soleil, ces feuilles, ces voitures, cette belle vie riche et gaie, tout cela, c'était pour elle. Tous les jours, elle pourrait venir ainsi, connue à son tour, saluée, enviée, et des hommes, en la montrant, diraient peut-être qu'elle était belle. Elle cherchait ceux et celles qui lui paraissaient les plus élégants et demandait toujours leur nom sans s'occuper d'autre chose que de ces syllabes assemblées qui, parfois, éveillaient en elle un écho de respect et d'admiration quand elle les avait lues souvent dans les journaux ou dans l'histoire.
elle ne s'accoutumait pas à ce défilé de célébrités et ne pouvait même croire tout à fait qu'elle fût ce vrai, comme si elle eût assisté à quelque représentation. Les fiacres lui inspiraient un mépris mêlé de dégoût, la gênaient et l'irritaient. Et elle dit soudain « Je trouve qu'on ne devrait laisser venir ici que les voitures de maître. » Bertin répondit « Eh bien, mademoiselle, que fait-on de l'égalité, de la liberté et de la fraternité ?» Elle eut une moue qui signifiait « À d'autres » et reprit « Il y aurait un bois pour les fiacres, celui de Vincennes, par exemple. » « Tu retardes, petite, et tu ne sais pas encore que nous nageons en pleine démocratie. D'ailleurs, si tu veux voir le bois pur de tout mélange, viens le matin. Tu n'y trouveras que la fleur, la fine fleur de la société. » Et il fit un tableau, un de ceux qu'il peignait si bien, du bois matinal avec ses cavaliers et ses amazones, de ce club des plus choisis où tout le monde se connaît par ses noms, petits noms, parentés, titres, qualités et vices, comme si tous vivaient dans le même quartier ou dans la même petite ville. « Y venez-vous souvent ? » dit-elle. « Très souvent. C'est vraiment ce qu'il y a de plus charmant à Paris. Vous montez à cheval le matin ? Mais oui. Et puis l'après-midi, vous faites des visites ? Oui. Alors, quand est-ce que vous travaillez ? Mais je travaille, quelquefois. Et puis, j'ai choisi une spécialité suivant mes goûts. Comme je suis peintre de belles dames, il faut bien que je les voie et que je les suive un peu partout. » Elle murmura, toujours sans rire, « À pied et à cheval ?» Il jeta vers elle un regard oblique et satisfait qui semblait dire « Tiens, tiens, déjà de l'esprit, tu seras très bien, toi. » Un souffle d'air froid passa, venu de très loin, de la grande campagne à peine éveillée encore, et le bois entier frémit, ce bois coquet, frileux et mondain. Pendant quelques secondes, ce frisson fit trembler les maigres feuilles sur les arbres et les étoffes sur les épaules. Toutes les femmes, d'un mouvement presque pareil, ramenèrent sur leurs bras et sur leurs gorges le vêtement tombé derrière elle, et les chevaux se mirent à trotter d'un bout à l'autre de l'allée, comme si la brise aigre qui accourait les eût fouettés en les touchant. On rentra vite, au milieu d'un bruit argentin de gourmettes secouées sous une ondée oblique et rouge du soleil couchant. « Est-ce que vous retournez chez vous ? » dit la comtesse au peintre, dont elle savait toutes les habitudes. « Non, je vais au cercle. Alors, nous vous déposons en passant ? Ça me va, merci bien. Et quand nous invitez-vous à déjeuner avec la duchesse ? Dites votre jour. » Ce peintre attitré des Parisiennes, que ses admirateurs avaient baptisé « un watteau réaliste » et que ses détracteurs appelaient « photographe de robes et de manteaux », recevait souvent, soit à déjeuner, soit à dîner, les belles personnes dont il avait reproduit les traits, et d'autres encore, toutes les célèbres, toutes les connues, qu'amusaient beaucoup ces petites fêtes dans un hôtel de garçons. « Après-demain, ça vous va-t-il après-demain, ma chère duchesse ?» demanda madame de Guilleroy. « Mais oui, vous êtes charmante. Monsieur Bertin ne pense jamais à moi pour ces parties-là. On voit bien que je ne suis plus jeune. » La comtesse, habituée à considérer la maison de l'artiste un peu comme la sienne, reprit « Rien que nous quatre, les quatre du landau, la duchesse, Annette, moi et vous, n'est-ce pas, grand artiste ?»« Rien que nous, » dit-il en descendant, « et je vous ferai faire des écrevisses à l'alsacienne. Oh, vous allez donner des passions à la petite. » Il saluait, debout à la portière, puis il entra vivement dans le vestibule de la grande porte du cercle, jeta son pardessus et sa canne à la compagnie de valets de pied qui s'étaient levés comme des soldats au passage d'un officier, puis il monta le large escalier,
passa devant une autre brigade de domestiques en culotte courte, poussa une porte et se sentit soudain alerte, comme un jeune homme, en entendant, au bout du couloir, un bruit continu de fleurets heurtés, d'appels de pieds, d'exclamations lancées par des voix fortes.
« Touchez ! À moi ! Passez ! J'en ai ! Touchez ! À vous !»
Dans la salle d'armes, les tireurs, vêtus de toile grise, avec leurs vestes de peau, leurs pantalons serrés aux chevilles, une sorte de tablier tombant sur le ventre, un bras en l'air, la main repliée, et dans l'autre rendu énorme par le gant, le mince et souple fleuret, s'allongeait et se redressait avec une brusque souplesse de pantin mécanique. D'autres se reposaient, causaient, encore essoufflés, rouges, en sueur, un mouchoir à l'autre main pour éponger leur front et leur cou. D'autres, assis sur le divan carré qui faisait le tour de la grande salle, regardaient les assauts. Liverdi contre Landa et le maître du cercle, Taillade, contre le grand Rogdian. Bertin, souriant, chez lui, serrait les mains.
« Je vous retiens !» lui cria le baron de Bavry.
« Je suis à vous, mon cher !»
Et il passa dans le cabinet de toilette pour se déshabiller. Depuis longtemps, il ne s'était senti aussi agile et vigoureux, et, devinant qu'il allait faire un excellent assaut, il se hâtait avec une impatience d'écolier qui va jouer. Dès qu'il eut devant lui son adversaire, il l'attaqua avec une ardeur extrême, et en 10 minutes, l'ayant touché 11 fois, le fatigua si bien que le baron demanda grâce. Puis il tira avec Punisimon et avec son confrère Amaury Maldan. La douche froide, ensuite, glaçant sa chair haletante, lui rappela les bains de la 20e année, quand il piquait des têtes dans la Seine, du haut des ponts de la banlieue, en plein automne, pour épater les bourgeois.
« Tu dînes ici ?» lui demandait Maldan.
« Oui. Nous avons une table avec Liverdi, Rogdian et Landa.
Dépêche-toi, il est 7h15. »
La salle à manger, pleine d'hommes, bourdonnait. Il y avait là tous les vagabonds nocturnes de Paris, des désœuvrés et des occupés, tous ceux qui, à partir de 7h du soir, ne savent plus que faire et dînent au cercle pour s'accrocher, grâce au hasard d'une rencontre, à quelque chose ou à quelqu'un. Quand les 5 amis se furent assis, le banquier Liverdi, un homme de 40 ans, vigoureux et trapu, dit à Bertin
« Vous étiez enragé ce soir ?»
Le peintre répondit
« Oui, aujourd'hui, je ferai des choses surprenantes. »
Les autres sourirent, et le paysagiste Amaury Maldan, un petit maigre chauve avec une barbe grise, dit d'un air fin
« Moi aussi, j'ai toujours un retour de sève en avril. Ça me fait pousser quelques feuilles, une 15 au plus, puis ça coule en sentiments. Il n'y a jamais de fruits. »
Le marquis de Rogdian et le comte de Landa le plaignirent. Plus âgés que lui, tous deux, sans qu'aucun œil exercé pût fixer leur âge, hommes de cercle, de cheval et d'épée, à qui les exercices incessants avaient fait des corps d'acier, ils se vantaient d'être plus jeunes en tout que les polissons énervés de la génération nouvelle. Rogdian, de bonne race, fréquentant tous les salons, mais suspect de tripotage d'argent de toute nature, ce qui n'était pas étonnant, disait Bertin, après avoir tant vécu dans les tripots, marié, séparé de sa femme qui lui payait une rente, administrateur de banques belges et portugaises, portait haut, sur sa figure énergique de Don Quichotte, un honneur un peu terni de gentilhomme à tout faire, que nettoyait de temps en temps le sang d'une piqûre en duel. Le comte de Landa, un bon colosse, fier de sa taille et de ses épaules, bien que marié et père de 2 enfants, ne se décidait qu'à grand-peine à dîner chez lui 3 fois par semaine et restait au cercle les autres jours, avec ses amis, après la séance de la salle d'armes.
Le cercle est une famille, disait-il, la famille de ceux qui n'en ont pas encore, de ceux qui n'en auront jamais, et de ceux qui s'ennuient dans la leur. La conversation, partie sur le chapitre « Femme », roula d'anecdotes en souvenirs et de souvenirs en vanteries jusqu'aux confidences indiscrètes. Le marquis de Rogdiane laissait soupçonner ses maîtresses par des indications précises, femmes du monde dont il ne disait pas les noms, afin de les faire mieux deviner. Le banquier Liverdi désignait les siennes par leurs prénoms. Il racontait « J'étais au mieux, en ce moment-là, avec la femme d'un diplomate. Or, un soir, en la quittant, je lui dis « Ma petite Marguerite !» Il s'arrêtait au milieu des sourires, puis reprenait « Hein, j'ai laissé échapper quelque chose. On devrait prendre l'habitude d'appeler toutes les femmes Sophie. » Olivier Bertin, très réservé, avait coutume de déclarer quand on l'interrogeait « Moi, je me contente de mes modèles. » On feignait de le croire, et Landa, un simple coureur de filles, s'exaltait à la pensée de tous les jolis morceaux qui trottent par les rues et de toutes les jeunes personnes déshabillées devant le peintre à 10 francs l'heure. À mesure que les bouteilles se vidaient, tous ces grisons, comme les appelaient les jeunes du cercle, tous ces grisons dont la face se rougissait, s'allumaient, secoués de désirs réchauffés et d'ardeur fermentée. Rogdiane, après le café, tombait dans des indiscrétions plus véridiques et oubliait les femmes du monde pour célébrer les simples cocottes. « Paris, disait-il, un verre de cumel à la main, la seule ville où un homme ne vieillisse pas, la seule où, à 50 ans, pourvu qu'il soit solide et bien conservé, il trouvera toujours une gamine de 18 ans, jolie comme un ange, pour l'aimer. » Landa, retrouvant son Rogdiane d'après les liqueurs, l'approuvait avec enthousiasme, énumérait les petites filles qui l'adoraient encore tous les jours. Mais Liverdi, plus sceptique et prétendant savoir exactement ce que valent les femmes, murmurait « Oui, elles vous le disent, qu'elles vous adorent. » Landa riposta « Elles me le prouvent, mon cher. Ces preuves-là ne comptent pas. Elles me suffisent. » Rogdiane criait « Mais elles le pensent, sacrebleu. Croyez-vous qu'une jolie petite gueuse de 20 ans qui fait la fête depuis 5 ou 6 ans déjà, la fête à Paris, où toutes nos moustaches lui ont appris et gâté le goût des baisers, sait encore distinguer un homme de 30 ans d'avec un homme de 60? Allons donc, quelle blague! Elle en a trop vu et trop connu. Tenez, je vous parie qu'elle aime mieux, au fond du cœur, mais vraiment mieux, un vieux banquier qu'un jeune gommeux. Est-ce qu'elle sait? Est-ce qu'elle réfléchit à ça? Est-ce que les hommes ont un âge ici? Eh, mon cher, nous autres, nous rajeunissons en blanchissant, et plus nous blanchissons, plus on nous dit qu'on nous aime, plus on nous le montre, et plus on le croit. » Ils se levèrent de table, congestionnés et fouettés par l'alcool, prêts à partir pour toutes les conquêtes. Et ils commençaient à délibérer sur l'emploi de leur soirée, Bertin parlant du cirque, Rogdiane de l'hippodrome, Maldan de l'Éden et Landa des folies bergères. Quand un bruit de violon qu'on accorde, léger, lointain, vint jusqu'à eux. « Tiens, il y a donc musique aujourd'hui au cercle ?» dit Rogdiane. « Oui, » répondit Bertin. « Si nous y passions 10 minutes avant de sortir ?»« Allons !» Ils traversèrent un salon, la salle de billard, une salle de jeu, puis arrivèrent dans une sorte de loge dominant la galerie des musiciens. 4 messieurs, enfoncés en des fauteuils, attendaient déjà d'un air recueilli, tandis qu'en bas, au milieu des rangs de sièges vides, une 10aine d'autres causaient, assis ou debout. Le chef d'orchestre tapait sur le pupitre à petits coups de son archet. On commença. Olivier Bertin adorait la musique, comme on adore l'opium. Elle le faisait rêver. Dès que le flot sonore des instruments l'avait touché,
Il se sentait emporté dans une sorte d'ivresse nerveuse qui rendait son corps et son intelligence incroyablement vibrants. Son imagination s'en allait comme une folle, grisée par les mélodies à travers des songeries douces et d'agréables rêvasseries. Les yeux fermés, les jambes croisées, les bras mous, il écoutait les sons et voyait des choses qui passaient devant ses yeux et dans son esprit. L'orchestre jouait une symphonie d'Haydn et le peintre, dès qu'il eut baissé ses paupières sur son regard, revit le bois, la foule des voitures autour de lui, et en face, dans le landau, la comtesse et sa fille. Il entendait leur voix, suivait leurs paroles, sentait le mouvement de la voiture, respirait l'air plein d'odeurs de feuilles. Trois fois, son voisin, lui parlant, interrompit cette vision qui recommença trois fois, comme recommence, après une traversée en mer, le roulis du bateau dans l'immobilité du lit. Puis elle s'étendit, s'allongea en un voyage lointain, avec les deux femmes assises toujours devant lui, tantôt en chemin de fer, tantôt à la table d'hôtels étrangers. Durant toute la durée de l'exécution musicale, elles l'accompagnèrent ainsi, comme si elles avaient laissé, durant cette promenade au grand soleil, l'image de leurs deux visages empreinte au fond de son œil. Un silence, puis un bruit de sièges remués et de voix chassèrent cette vapeur de songe, et il aperçut, sommeillant autour de lui, ses quatre amis en des postures naïves d'attention changées en sommeil. Quand il les eut réveillés, « Eh bien, que faisons-nous maintenant ? » dit-il. « Moi, répondit avec franchise Rogdian, j'ai envie de dormir ici, encore un peu. » « Moi aussi, » reprit Landa. Bertin se leva. « Eh bien, moi, je rentre. Je suis un peu las. » Il se sentait au contraire fort animé, mais il désirait s'en aller par crainte des fins de soirée qu'il connaissait si bien autour de la table de baccarat du cercle. Il rentra donc, et le lendemain, après une nuit de nerfs, une de ces nuits qui mettent les artistes dans cet état d'activité cérébrale baptisé « inspiration », il se décida à ne pas sortir et à travailler jusqu'au soir. Ce fut une journée excellente, une de ces journées de production facile où l'idée semble descendre dans les mains et se fixer d'elle-même sur la toile. Les portes closes, séparées du monde, dans la tranquillité de l'hôtel fermé pour tous, dans la paix amie de l'atelier, l'œil clair, l'esprit lucide, surexcité, alerte, il goûta ce bonheur donné aux seuls artistes d'enfanter leur œuvre dans l'allégresse. Rien n'existait plus pour lui, pendant ses heures de travail, que le morceau de toile où naissait une image sous la caresse de ses pinceaux. Et il éprouvait, en ces crises de fécondité, une sensation étrange et bonne, de vie abondante qui se grise et se répand. Le soir, il était brisé comme après une saine fatigue, et il se coucha, avec la pensée agréable de son déjeuner du lendemain. La table fut couverte de fleurs, le menu très soigné pour Madame de Guilleroy, gourmande raffinée, et malgré une résistance énergique mais courte, le peintre força ses convives à boire du champagne. « La petite sera ivre, » disait la comtesse. La duchesse indulgente répondait « Mon Dieu, il faut bien l'être une première fois. » Tout le monde, en retournant dans l'atelier, se sentait un peu agité par cette gaieté légère qui soulève comme si elle faisait pousser des ailes aux pieds. La duchesse et la comtesse, ayant une séance au comité des mères françaises, devaient reconduire la jeune fille avant de se rendre à la société. Mais Bertin offrit de faire un tour à pied avec elle en la ramenant boulevard Malesherbes, et ils sortirent tous les deux. « Prenons par le plus long, » dit-elle. « Veux-tu rôder dans le parc Monceau ? C'est un endroit très gentil.
nous regarderons les mioches et les nourrices.
Mais oui, je veux bien. »
Ils franchirent, par l'avenue Velasquez, la grille dorée et monumentale qui sert d'enseigne et d'entrée à ce bijou de parc élégant, étalant en plein Paris sa grâce factice et verdoyante au milieu d'une ceinture d'hôtels princiers. Le long des larges allées qui déploient à travers les pelouses et les massifs leurs courbes savantes, une foule de femmes et d'hommes, assis sur des chaises de fer, regardent défiler les passants, tandis que, par les petits chemins enfoncés sous les ombrages et serpentants comme des ruisseaux, un peuple d'enfants grouille dans le sable, court, saute à la corde sous l'œil indolent des nourrices ou sous le regard inquiet des mères. Les arbres énormes, arrondis en dôme comme des monuments de feuilles, les marronniers géants, dont la lourde verdure est éclaboussée de grappes rouges ou blanches, les sycomores distingués, les platanes décoratifs, avec leurs troncs savamment tourmentés, ornent en des perspectives séduisantes les grands gazons onduleux. Il fait chaud, les tourterelles roucoulent dans les feuillages, et voisinent de cime en cime, tandis que les moineaux se baignent dans l'arc-en-ciel, dont le soleil enlumine la poussière d'eau des arrosages, égrenée sur l'herbe fine. Sur leur socle, les statues blanches semblent heureuses dans cette fraîcheur verte. Un jeune garçon de marbre retire de son pied une épine introuvable, comme s'il s'était piqué tout à l'heure, en courant après la Diane qui fuit là-bas, vers le petit lac, emprisonné dans les bosquets, où s'abrite la ruine d'un temple. D'autres statues s'embrassent, amoureuses et froides au bord des massifs, ou bien rêvent, un genou dans la main. Une cascade écume et roule sur de jolis rochers. Un arbre, tronqué comme une colonne, porte un lierre. Un tombeau porte une inscription. Les fûts de pierre dressés sur les gazons ne rappellent guère plus l'acropole que cet élégant petit parc ne rappelle les forêts sauvages. C'est l'endroit artificiel et charmant où les gens de ville vont contempler des fleurs élevées en des serres et admirer, comme on admire au théâtre le spectacle de la vie, cette aimable représentation que donne, en plein Paris, la belle nature. Olivier Bertin, depuis des années, venait presque chaque jour en ce lieu préféré pour y regarder les Parisiennes se mouvoir en leur vrai cadre. « C'est un parc fait pour la toilette, » disait-il. « Les gens mal mis y font horreur. » Et il y rôdait pendant des heures, en connaissait toutes les plantes et tous les promeneurs habituels. Il marchait à côté d'Annette, le long des allées, l'œil distrait par la vie bariolée et remuante du jardin. « Oh, l'amour !» cria-t-elle. Elle contemplait un petit garçon à boucles blondes qui la regardait de ses yeux bleus, d'un air étonné et ravi. Puis elle passa une revue de tous les enfants, et le plaisir qu'elle avait à voir ces vivantes poupées enrubannées la rendait bavarde et communicative. Elle marchait à petits pas, disait à Bertin ses remarques, ses réflexions sur les petits, sur les nourrices, sur les mères. Les enfants gros lui arrachaient des exclamations de joie, et les enfants pâles l'apitoyaient. Il l'écoutait, amusé par elle, plus que par les mioches, et sans oublier la peinture, murmurait « c'est délicieux ». En songeant qu'il devrait faire un exquis tableau avec un coin du parc et un bouquet de nourrices, de mères et d'enfants. Comment n'y avait-il pas songé ? « Tu aimes ces galopins-là » dit-il. « Je les adore. » À la voir les regarder, il sentait qu'elle avait envie de les prendre, de les embrasser, de les manier, une envie matérielle et tendre de mère future. Et il s'étonnait de cet instinct secret, caché en cette chair de femme. Comme elle était disposée à parler, il l'interrogea sur ses goûts.
et la voix des espérances de succès et de gloire mondaine, avec une naïveté gentille, désira de beaux chevaux qu'elle connaissait presque en maquignon, car l'élevage occupait une partie des fermes de Roncières. Et elle ne s'inquiéta guère plus d'un fiancé que de l'appartement qu'on trouverait toujours dans la multitude des étages à louer. Ils approchaient du lac, où deux cygnes et six canards flottaient doucement, aussi propres et calmes que des oiseaux de porcelaine, et ils passèrent devant une jeune femme, assise sur une chaise, un livre ouvert sur les genoux, les yeux levés devant elle, l'âme envolée dans une songerie. Elle ne bougeait pas plus qu'une figure de cire. Laide, humble, vêtue en fille modeste qui ne songe point à plaire, une institutrice peut-être, elle était partie pour le rêve, emportée par une phrase ou par un mot qui avait ensorcelé son cœur. Elle continuait, sans doute, selon la poussée de ses espérances, l'aventure commencée dans le livre. Bertin s'arrêta, surpris. « C'est beau, dit-il, de s'en aller comme ça. » Ils avaient passé devant elle. Ils retournèrent et revinrent encore, sans qu'elle les aperçût, tant elle suivait de toute son attention le vol lointain de sa pensée. Le peintre dit à Annette, « Dis donc, petite, est-ce que ça t'ennuierait de me poser une figure, une fois ou deux ? » ?»« Mais non, au contraire. Regarde bien cette demoiselle qui se promène dans l'idéal. Là, sur cette chaise ? » ?»« Oui. » »« Eh bien, tu t'assoiras aussi sur une chaise. Tu ouvriras un livre sur tes genoux et tu tâcheras de faire comme elle. As-tu quelquefois rêvé, tout éveillé ? » ?»« Ben oui. » « À quoi ?» Et il essaya de la confesser sur ses promenades dans le bleu. Mais elle ne voulait point répondre, détournait ses questions, regardait les canards nager après le pain que leur jetait une dame, et semblait gênée, comme s'il eût touché en elle à quelque chose de sensible. Puis, pour changer de sujet, elle raconta sa vie à Roncières, parla de sa grand-mère, à qui elle faisait de longues lectures à haute voix, tous les jours, et qui devait être bien seule et bien triste maintenant. Le peintre, en l'écoutant, se sentait gai comme un oiseau, gai comme il ne l'avait jamais été. Tout ce qu'elle lui disait, tous les menus et futiles et médiocres détails de cette simple existence de fillette, l'amusaient et l'intéressaient. « Asseyons-nous, » dit-il. Ils s'assirent auprès de l'eau. Et les deux cygnes s'en vinrent flotter devant eux, espérant quelque nourriture. Bertin sentait en lui s'éveiller des souvenirs, ces souvenirs disparus, noyés dans l'oubli, et qui soudain reviennent, on ne sait pourquoi. Ils surgissaient rapides, de toutes sortes, si nombreux en même temps qu'il éprouvait la sensation d'une main remuant la vase de sa mémoire. Il cherchait pourquoi avait lieu ce bouillonnement de sa vie ancienne, que plusieurs fois déjà, moins qu'aujourd'hui cependant, il avait senti et remarqué. Il existait toujours une cause à ces évocations subites, une cause matérielle et simple, une odeur, un parfum souvent. Que de fois, une robe de femme lui avait jeté au passage, avec le souffle évaporé d'une essence, tout un rappel d'événements effacés. Au fond des vieux flacons de toilette, il avait retrouvé souvent aussi des parcelles de son existence. Et toutes les odeurs errantes, celles des rues, des champs, des maisons, des meubles, les douces et les mauvaises, les odeurs chaudes des soirs d'été, les odeurs froides des soirs d'hiver, ranimaient toujours chez lui de lointaines réminiscences, comme si les senteurs gardaient en elles les choses mortes embaumées à la façon des aromates qui conservent les momies. Était-ce l'herbe mouillée ou la fleur des marronniers qui ranimait ainsi l'autrefois ? Non. Alors quoi ? Était-ce à son œil qu'il devait cette alerte ? Qu'avait-il vu ? Rien.
Parmi les personnes rencontrées, une d'elles, peut-être, ressemblait à une figure de jadis et, sans qu'il l'eût reconnue, secouait en son cœur toutes les cloches du passé. N'était-ce pas un son, plutôt ? Bien souvent, un piano entendu par hasard, une voix inconnue, même un orgue de barbarie jouant sur une place, un air démodé, l'avait brusquement rajeuni de 20 ans, en lui gonflant la poitrine d'attendrissements oubliés. Mais cet appel continuait, incessant, insaisissable, presque irritant. Qu'y avait-il autour de lui, près de lui, pour raviver de la sorte ses émotions éteintes ? « Il fait un peu frais, dit-il. Allons-nous-en. » Ils se levèrent et se remirent à marcher. Ils regardaient sur les bancs les pauvres assis, ceux pour qui la chaise était une trop forte dépense. Annette, maintenant, les observait aussi et s'inquiétait de leur existence, de leur profession. S'étonnait qu'ayant l'air si misérable, ils vinssent paraisser ainsi dans ce beau jardin public. Et plus encore que tout à l'heure, Olivier remontait les années écoulées. Il lui semblait qu'une mouche ronflait à ses oreilles et les emplissait du bourdonnement confus des jours finis. La jeune fille, le voyant rêveur, lui demanda « Qu'avez-vous ? Vous semblez triste. » Et il tressaillit jusqu'au cœur. Qui avait dit cela ? Elle ou sa mère ? Non, pas sa mère, avec sa voix d'à présent, mais avec sa voix d'autrefois, tant changée qu'il venait seulement de la reconnaître. Il répondit en souriant. « Je n'ai rien. Tu m'amuses beaucoup. Tu es très gentille. Tu me rappelles ta maman. » Comment n'avait-il pas remarqué plus vite cet étrange écho de la parole jadis si familière qui sortait à présent de ses lèvres nouvelles ?« Parle encore, » dit-il. « De quoi ? Dis-moi ce que tes institutrices t'ont fait apprendre. Les aimais-tu ?» Elle se remit à bavarder. Et il écoutait, saisi par un trouble croissant. Il épiait, il attendait, au milieu des phrases de cette fillette presque étrangère à son cœur, un mot, un son, un rire qui semblait rester dans sa gorge depuis la jeunesse de sa mère. Des intonations, parfois, le faisait frémir d'étonnement. Certes, il y avait entre leurs paroles des dissemblances telles qu'il n'en avait pas tout de suite remarqué les rapports, telles que, souvent même, il ne les confondait plus du tout. Mais cette différence ne rendait que plus saisissant les brusques réveils du parler maternel. Jusqu'ici, il avait constaté la ressemblance de leurs visages d'un œil amical et curieux. Mais voilà que le mystère de cette voix ressuscitée les mêlait d'une telle façon qu'en détournant la tête pour ne plus voir la jeune fille, il se demandait par moments si ce n'était pas la comtesse qui lui parlait ainsi 12 ans plus tôt. Puis, lorsqu'halluciné par cette évocation, il se retournait vers elle, il retrouvait encore, à la rencontre de son regard, un peu de cette défaillance que jetait en lui, au premier temps de leur tendresse, l'œil de la mère. Ils avaient fait déjà 3 fois le tour du parc, repassant toujours devant les mêmes personnes, les mêmes nourrices, les mêmes enfants. Annette, à présent, inspectait les hôtels qui entourent ce jardin et demandait les noms de leurs habitants. Elle voulait tout savoir sur toutes ces gens, interrogeait avec une curiosité vorace, semblait emplir de renseignements sa mémoire de femme, et, la figure éclairée par l'intérêt, écoutait des yeux autant que de l'oreille. Mais, en arrivant au pavillon qui sépare les 2 portes sur le boulevard extérieur, Bertin s'aperçut que 4 heures allaient sonner. « Oh ! » dit-il, « il faut rentrer !» Et ils gagnèrent doucement le boulevard Malesherbes. Quand il eut quitté la jeune fille, le peintre descendit vers la place de la Concorde pour faire une visite sur l'autre rive de la Seine. Il chantonnait,
Il avait envie de courir. Il aurait volontiers sauté par-dessus les bancs tant il se sentait agile. Paris lui paraissait radieux, plus joli que jamais. Décidément, pensait-il, le printemps revernit tout le monde. Il était dans une de ces heures où l'esprit excité comprend tout avec plus de plaisir, où l'œil voit mieux, semble plus impressionnable et plus clair, où l'on goûte une joie plus vive à regarder et à sentir, comme si une main toute puissante venait de rafraîchir toutes les couleurs de la terre, de ranimer tous les mouvements des êtres, et de remonter en nous, ainsi qu'une montre qui s'arrête, l'activité des sensations. Il pensait, en cueillant du regard mille choses amusantes, dire qu'il y a des moments où je ne trouve pas de sujet à peindre. Et il se sentait l'intelligence si libre et si clairvoyante que toute son œuvre d'artiste lui parut banale et qu'il concevait une nouvelle manière d'exprimer la vie, plus vraie et plus originale. Et soudain, l'envie de rentrer et de travailler le saisit, le fit retourner sur ses pas et s'enfermer dans son atelier. Mais dès qu'il fut seul, en face de la toile commencée, cette ardeur qui lui brûlait le sang tout à l'heure s'apaisa tout à coup. Il se sentit là, s'assit sur son divan et se remit à rêvasser. L'espèce d'indifférence heureuse dans laquelle il vivait, cette insouciance d'homme satisfait dont presque tous les besoins sont apaisés, s'en allait de son cœur tout doucement, comme si quelque chose lui eût manqué. Il sentait sa maison vide et désert son grand atelier. Alors, en regardant autour de lui, il lui semble avoir passé l'ombre d'une femme dont la présence lui était douce. Depuis longtemps, il avait oublié les impatiences d'amant qui attend le retour d'une maîtresse. Et voilà que, subitement, il la sentait éloignée et la désirait près de lui avec un énervement de jeune homme. Il s'attendrissait à songer combien il s'était aimé, et il retrouvait, en tout ce vaste appartement où il était si souvent venu, d'innombrables souvenirs d'elle, de ses gestes, de ses paroles, de ses baisers. Il se rappelait certains jours, certaines heures, certains moments, et il sentait autour de lui le frôlement de ses caresses anciennes. Il se releva, ne pouvant plus tenir en place, et se mit à marcher en songeant de nouveau que, malgré cette liaison dont son existence avait été remplie, il demeurait bien seul, toujours seul. Après les longues heures de travail, quand il regardait autour de lui, étourdi par ce réveil de l'homme qui rentre dans la vie, il ne voyait et ne sentait que des murs à la portée de sa main et de sa voix. Il avait dû, n'ayant pas de femme en sa maison et ne pouvant rencontrer qu'avec des précautions de voleur celle qu'il aimait, traîner ses heures désœuvrées en tous les lieux publics où l'on trouve, où l'on achète, des moyens quelconques de tuer le temps. Il avait des habitudes au cercle, des habitudes au cirque et à l'hippodrome, à jour fixe, des habitudes à l'opéra, des habitudes un peu partout pour ne pas rentrer chez lui, où il serait demeuré avec joie sans doute s'il y avait vécu près d'elle. Autrefois, en certaines heures de tendre affolement, il avait souffert d'une façon cruelle de ne pouvoir la prendre et la garder avec lui. Puis, son ardeur se modérant, il avait accepté sans révolte leur séparation et sa liberté. Maintenant, il les regrettait de nouveau, comme s'il recommençait à l'aimer. Et ce retour de tendresse l'envahissait ainsi brusquement, presque sans raison, parce qu'il faisait beau dehors et peut-être parce qu'il avait reconnu tout à l'heure la voix rajeunie de cette femme. Combien peu de choses il faut pour émouvoir le cœur d'un homme vieillissant, chez qui le souvenir se fait regret.
comme autrefois. Le besoin de la revoir lui venait, entrait dans son esprit et dans sa chair à la façon d'une fièvre. Et il se mit à penser à elle un peu comme font les jeunes amoureux, en l'exaltant en son cœur et en s'exaltant lui-même pour la désirer davantage. Puis il se décida, bien qu'il l'eût vue dans la matinée, à aller lui demander une tasse de thé le soir même. Les heures lui parurent longues, et en sortant pour descendre au boulevard Malesherbes, une peur vive le saisit de ne pas la trouver et d'être forcé de passer encore cette soirée tout seul, comme il en avait passé bien d'autres pourtant. À sa demande, la comtesse est-elle chez elle? Le domestique répondant « Oui, monsieur », fit entrer de la joie en lui. Il dit d'un ton radieux « C'est encore moi », en apparaissant au seuil du petit salon où les deux femmes travaillaient sous les abat-jours roses d'une lampe à double foyer en métal anglais portée sur une tige haute et mince. La comtesse s'écria « Comment, c'est vous? Ah, quelle chance !»« Mais oui, je me suis senti très solitaire et je suis venu. » « Comme c'est gentil. Vous attendez quelqu'un ?»« Non, peut-être, je ne sais jamais. » Il s'était assis et regardait avec un air de dédain le tricot gris en grosse laine qu'elle confectionnait vivement au moyen de longues aiguilles en bois. Il demanda « Qu'est-ce que cela ?»« Des couvertures. »« De pauvres. » »« Oui, bien entendu. » »« C'est très laid. » »«
C'est très chaud. »
« Possible, mais c'est très laid, surtout dans un appartement Louis XV, où tout caresse l'œil. Si ce n'est pour vos pauvres, vous devriez, pour vos amis, faire vos charités plus élégantes. »«
Mon Dieu, les hommes !» dit-elle en haussant les épaules.
« Mais on en prépare partout en ce moment, de ces couvertures-là. »«
Je le sais bien, je le sais trop. » On ne peut plus faire une visite le soir sans voir traîner cette affreuse loque grise sur les plus jolies toilettes et sur les meubles les plus coquets. On a ce printemps la bienfaisance de mauvais goût. »
La comtesse, pour juger s'il disait vrai, étendit le tricot qu'elle tenait sur la chaise de soie inoccupée à côté d'elle. Puis elle convint avec indifférence.
« Oui, en effet, c'est laid. »
Et elle se remit à travailler. Les deux têtes voisines, penchées sous les deux lumières toutes proches, recevaient dans les cheveux une coulée de lueurs roses qui se répandait sur la chair des visages, sur les robes et sur les mains remuantes. Et elle regardait leur ouvrage avec cette attention légère et continue des femmes habituées à ces besognes des doigts que l'œil suit sans que l'esprit y songe. Aux quatre coins de l'appartement, quatre autres lampes en porcelaine de Chine, portées sur des colonnes anciennes de bois doré, répandaient sur les tapisseries une lumière douce et régulière, atténuée par des transparents de dentelle jetés sur les globes. Bertin prit un siège très bas, un fauteuil nain, où il pouvait tout juste s'asseoir, mais qu'il avait toujours préféré pour causer avec la comtesse, en demeurant presque à ses pieds. Elle lui dit « Vous avez fait une longue promenade avec Nanée, tantôt, dans le parc. »«
Oui, nous avons bavardé comme de vieux amis. »«
Je l'aime beaucoup, votre fille. Elle vous ressemble tout à fait. Quand elle prononce certaines phrases, on croirait que vous avez oublié votre voix dans sa bouche. »«
Mon mari me l'a déjà dit bien souvent. »
Il les regardait travailler, baignés dans la clarté des lampes, et la pensée dont il souffrait souvent, dont il avait encore souffert dans le jour, le souci de son hôtel désert, immobile, silencieux, froid, quel que soit le temps, quel que soit le feu des cheminées et du calorifère, le chagrina, comme si, pour la première fois, il comprenait bien son isolement. Oh, comme il aurait décidément voulu être le mari de cette femme, et non son amant. Jadis, il désirait l'enlever, la prendre à cet homme, la lui voler complètement. Aujourd'hui, il le jalousait, ce mari trompé, qui était installé près d'elle pour toujours,
dans les habitudes de sa maison et dans le câlinement de son contact. En la regardant, il se sentait le cœur tout rempli de choses anciennes, revenues, qu'il aurait voulu lui dire. Vraiment, il l'aimait bien encore, même un peu plus, beaucoup plus aujourd'hui qu'il n'avait fait depuis longtemps. Et ce besoin de lui exprimer ce rajeunissement, dont elle serait si contente, lui faisait désirer qu'on envoyât se coucher la jeune fille le plus vite possible. Obsédé par cette envie d'être seul avec elle, de se rapprocher jusqu'à ses genoux où il poserait sa tête, de lui prendre les mains dont s'échapperait la couverture du pauvre, les aiguilles de bois et la pelote de laine qui s'en irait sous un fauteuil au bout d'un fil déroulé, il regardait l'heure, ne parlait plus guère, et trouvait que vraiment on a tort d'habituer les fillettes à passer la soirée avec les grandes personnes. Des pas troublèrent le silence du salon voisin, et le domestique, dont la tête apparut, annonça « Monsieur de Musadieu ». Olivier Bertin eut une petite rage comprimée, et quand il serra la main de l'inspecteur des Beaux-Arts, il se sentit une envie de le prendre par les épaules et de le jeter dehors. Musadieu était plein de nouvelles. Le ministère allait tomber, et on chuchotait un scandale sur le marquis de Roquediane. Il ajouta, en regardant la jeune fille, « Je compterai cela un peu plus tard. » La comtesse leva les yeux sur la pendule et constata que 10 heures allaient sonner. « Il est temps de te coucher, mon enfant, » dit-elle à sa fille. Annette, sans répondre, plia son tricot, roula sa laine, baisa sa mère sur les joues, tendit la main aux deux hommes et s'en alla prestement, comme si elle eût glissé sans agiter l'air en passant. Quand elle fut sortie, « Eh bien, votre scandale ?» demanda la comtesse. On prétendait que le marquis de Roquediane, séparé à l'amiable de sa femme qui lui payait une rente jugée par lui insuffisante, avait trouvé, pour la faire doubler, un moyen sûr et singulier. La marquise, suivie sur son ordre, s'était laissée surprendre en flagrant délit et avait dû racheter par une pension nouvelle le procès-verbal dressé par le commissaire de police. La comtesse écoutait, le regard curieux, les mains immobiles, tenant sur ses genoux l'ouvrage interrompu. Bertin, que la présence de Musadieu exaspérait depuis le départ de la jeune fille, se fâcha et affirma, avec une indignation d'homme qui sait et qui n'a voulu parler à personne de cette calomnie, que c'était là un odieux mensonge, un de ces honteux potins que les gens du monde ne devraient jamais écouter ni répéter. Il se fâchait, debout maintenant contre la cheminée, avec des airs nerveux d'homme disposé à faire de cette histoire une question personnelle. Roquediane était son ami, et si on avait pu, en certains cas, lui reprocher sa légèreté, on ne pouvait l'accuser, même le soupçonner d'aucune action vraiment suspecte. Musadieu, surpris et embarrassé, se défendait, reculait, s'excusait. « Permettez, disait-il, j'ai entendu ce propos tout à l'heure chez la duchesse de Mortemain. » Bertin demanda, « Qui vous a raconté cela ? » ?»«
Une femme, sans doute. » »«
Non, pas du tout. Le marquis de Farandal. » Et le peintre, crispé, répondit,
« Cela ne m'étonne pas de lui. »
Il y eut un silence. La comtesse se remit à travailler. Puis Olivier reprit d'une voix calmée, « Je sais pertinemment que cela est faux. » Il ne savait rien, entendant parler pour la première fois de cette aventure. Musadieu se préparait une retraite, sentant la situation dangereuse, et il parlait déjà de s'en aller pour faire une visite aux corbelles, quand le comte de Guilleroy parut, revenant de dîner en ville. Bertin se rassit, accablé, désespérant à présent de se débarrasser du mari.
« Vous ne savez pas, dit le comte, le gros scandale qui court ce soir ?»
Comme personne ne répondait, il reprit.
« Il paraît que Roquediane a surpris sa femme en conversation criminelle
et lui fait payer fort cher cette indiscrétion.
Alors Bertin, avec des airs désolés, avec du chagrin dans la voix et dans le geste, posant une main sur le genou de Guilleroy, répéta en termes amicaux et doux ce que tout à l'heure il avait paru jeter au visage de Musadieu. Et le comte, à moitié convaincu, fâché d'avoir répété à la légère une chose douteuse et peut-être compromettante, plaidait son ignorance et son innocence. On raconte en effet tant de choses fausses et méchantes. Soudain, tous furent d'accord sur ceci. Que le monde accuse, soupçonne et calomnie avec une déplorable facilité. Et ils parurent convaincus tous les quatre, pendant 5 minutes, que tous les propos chuchotés sont mensonges, que les femmes n'ont jamais les amants qu'on leur suppose, que les hommes ne font jamais les infamies qu'on leur prête, et que la surface, en somme, est bien plus vilaine que le fond. Bertin, qui n'en voulait plus à Musadieu depuis l'arrivée de Guilleroy, lui dit des choses flatteuses, le mit sur les sujets qu'il préférait, ouvrit la vanne de sa faconde. Et le comte semblait content, comme un homme qui porte partout avec lui l'apaisement et la cordialité. Deux domestiques, venus à pas sourds sur les tapis, entrèrent, portant la table à thé où l'eau bouillante fumait dans un joli appareil tout brillant, sous la flamme bleue d'une lampe à esprit de vin. La comtesse se leva, prépara la boisson chaude avec les précautions et les soins que nous ont apportés les Russes, puis offrit une tasse à Musadieu, une autre à Bertin, et revint avec des assiettes contenant des sandwichs au foie gras et de menues pâtisseries autrichiennes et anglaises. Le comte, s'étant approché de la table mobile où s'alignaient aussi des sirops, des liqueurs et des verres, fit un grog, puis, discrètement, glissa dans la pièce voisine et disparut. Bertin, de nouveau, se trouva seul en face de Musadieu, et le désir soudain le reprit de pousser dehors ce gêneur qui, mis en verve, pérorait, semait des anecdotes, répétait des mots, en faisait lui-même. Et le peintre, sans cesse, consultait la pendule dont la longue aiguille approchait de minuit. La comtesse vit son regard, comprit qu'il cherchait à lui parler, et, avec cette adresse des femmes du monde, habile à changer, par des nuances, le ton d'une causerie et l'atmosphère d'un salon, à faire comprendre, sans rien dire, qu'on doit rester ou qu'on doit partir, elle répandit, par sa seule attitude, par l'air de son visage et l'ennui de ses yeux, du froid autour d'elle, comme si elle venait d'ouvrir une fenêtre. Musadieu sentit ce courant d'air glaçant ses idées, et, sans qu'il se demandât pourquoi, l'envie se fit en lui de se lever et de s'en aller. Bertin, par savoir-vivre, imita son mouvement. Les deux hommes se retirèrent ensemble, en traversant les deux salons, suivis par la comtesse, qui causait toujours avec le peintre. Elle le retint sur le seuil de l'antichambre pour une explication quelconque, pendant que Musadieu, aidé d'un valet de pied, endossait son paletot. Comme Madame de Guilleroy parlait toujours à Bertin, l'inspecteur des Beaux-Arts, ayant attendu quelques secondes devant la porte de l'escalier, tenue ouverte par l'autre domestique, se décida à sortir seul pour ne point rester debout en face du valet. La porte, doucement, fut refermée sur lui, et la comtesse dit à l'artiste, avec une parfaite aisance, « Mais, au fait, pourquoi partez-vous si vite? Il n'est pas minuit. Restez donc encore un peu. » Et ils rentrèrent ensemble dans le petit salon. Dès qu'ils furent assis, « Dieu, que cet animal m'agaçait !» dit-il. « Et pourquoi ? Il me prenait un peu de vous. Oh, pas beaucoup. C'est possible, mais il me gênait. Vous êtes jaloux ? Ce n'est pas être jaloux que de trouver un homme encombrant. » Il avait repris son petit fauteuil et, tout près d'elle maintenant, il maniait entre ses doigts l'étoffe de sa robe, en lui disant quel souffle chaud lui passait dans le cœur ce jour-là. Elle écoutait,
surprise, ravie. Et doucement, elle posa une main dans ses cheveux blancs qu'elle caressait doucement, comme pour le remercier. « Je voudrais tant vivre près de vous, » dit-il. Il songeait toujours à ce mari couché, endormi sans doute dans une chambre voisine, et il reprit « Il n'y a vraiment que le mariage pour unir deux existences. » Elle murmura « Mon pauvre ami, pleine de pitié pour lui et aussi pour elle. » Il avait posé sa joue sur les genoux de la comtesse et la regardait avec tendresse, avec une tendresse un peu mélancolique, un peu douloureuse, moins ardente que tout à l'heure, quand il était séparé d'elle par sa fille, son mari, et Musadieu. Elle dit, avec un sourire, en promenant toujours ses doigts légers sur la tête d'Olivier, « Dieu, que vous êtes blanc. Vos derniers cheveux noirs ont disparu. Hélas, je le sais, ça va vite. » Elle eut peur de l'avoir attristé. « Oh, vous étiez gris très jeune, d'ailleurs. Je vous ai toujours connu poivre et sel. » « Oui, c'est vrai. » Pour effacer tout à fait la nuance de regret qu'elle avait provoquée, elle se pencha et, lui soulevant la tête entre ses deux mains, mit sur son front des baisers lents et tendres, ces longs baisers qui semblent ne pas devoir finir. Puis ils se regardèrent, cherchant à voir au fond de leurs yeux le reflet de leur affection. « Je voudrais bien, » dit-il, « passer une journée entière près de vous. » Il se sentait tourmenté obscurément par d'inexprimables besoins d'intimité. Il avait cru tout à l'heure que le départ des gens qui étaient là suffirait à réaliser ce désir éveillé depuis le matin. Et maintenant qu'il demeurait seul avec sa maîtresse, qu'il avait sur le front la tiédeur de ses mains et contre la joue, à travers sa robe, la tiédeur de son corps, il retrouvait en lui le même trouble, la même envie d'amour inconnue et fuyante. Et il s'imaginait à présent que, hors de cette maison, dans les bois peut-être, où il serait tout à fait seul, sans personne autour d'eux, cette inquiétude de son cœur serait satisfaite et calmée. Elle répondit « Que vous êtes enfant, mais nous nous voyons presque chaque jour. » Il la supplia de trouver le moyen de venir déjeuner avec lui, quelque part aux environs de Paris, comme ils avaient fait jadis 4 ou 5 fois. Elle s'étonnait de ce caprice, si difficile à réaliser, maintenant que sa fille était revenue. Elle essaierait cependant, dès que son mari irait aux ronces, mais cela ne se pourrait faire qu'après le vernissage qui avait lieu le samedi suivant. « Et d'ici là, dit-il, quand vous verrai-je ? Demain soir, chez les Corbelles. Venez en outre ici, jeudi, à 3 heures, si vous êtes libre. Et je crois que nous devons dîner ensemble vendredi chez la Duchesse. » « Oui, parfaitement. » Il se leva. « Adieu. » « Adieu, mon ami. » Il restait debout, sans se décider à partir, car il n'avait presque rien trouvé de tout ce qu'il était venu lui dire, et sa pensée restait pleine de choses inexprimées, gonflées d'effusions vagues qui n'étaient point sorties. Il répéta « Adieu » en lui prenant les mains. « Adieu, mon ami, je vous aime. » Elle lui jeta un de ces sourires où une femme montre à un homme en une seconde tout ce qu'elle lui a donné. Le cœur vibrant, il répéta pour la 3e fois « Adieu » et il partit.